Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Aliette Ovine, Xavier Martinet et Paloma Soria Brown. À la réalisation, Jean-Christophe Francis. À la technique, Théo Gomard.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
Troisième jour de notre série sur la crise économique qui se propage à l'heure où la pandémie continue de paralyser une large part de l'activité. Après avoir observé lundi les premiers symptômes, pauvreté et précarité, et envisagé hier le remède universel de la dépense publique, c'est le rôle de la monnaie commune que nous examinons aujourd'hui. La Banque Centrale Européenne a sorti les grands moyens pour soutenir les pays de la zone euro en rachetant massivement des titres de dette. Cependant, pour certains, le bazooka financier ne suffit pas, il faut aller beaucoup plus loin. Alors l'euro peut-il relever le défi de la solidarité ? C'est la question que nous allons poser à nos deux invités. Il est 14h sur France Culture, bienvenue dans Entendez-vous l'écho ? Nous pénétrons aujourd'hui dans l'univers impitoyable de la zone euro en compagnie de Bruno Terret, économiste, directeur de recherche émérite au CNRS, chercheur à l'université Paris-Dauphine au laboratoire Idrisso, en compagnie également de Laurence Cialom, économiste, professeur des universités à Paris-Nanterre, co-autrice avec Baptiste Bridonneau d'une note publiée sur le site de Terra Nova intitulée « Des annulations de dettes publiques par la BCE, lançons le débat ». Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. C'est un éminent philosophe et sociologue qui va ouvrir cette émission, Georg Simmel. Écoutez cet extrait de La philosophie de l'argent, publié en 1900.
L'État moderne repose sur une réunion, une imbrication, une unification considérable de toutes les forces politiques. De sorte que l'on peut affirmer directement face au gaspillage de force causé par la division d'une nation en ses communautés indépendantes, de très petite extension et respectivement centralisées, la personnalité libre et différenciée d'une part, aussi bien que le macro-État moderne d'autre part, représente une réunion incomparable des forces. Ainsi, dans les tensions sociales, les forces revêtent une forme tellement concise que devant chaque exigence particulière, on peut, avec un minimum de nouvelles dépenses d'énergie, atteindre un maximum de résultats. Or, il est intéressant de bien voir que l'argent, en exprimant la valeur des choses de la façon la plus brève et la plus concise, non seulement se rattache à ces exemples de la tendance historique à la condensation des forces, mais qu'il la confine encore par ses rapports directs avec mains exemples allant dans le même sens, tout en relevant de domaines bien différents.
Bruno Terret, qu'est-ce que Georg Simmel nous apprend sur l'argent, défini ici comme la réunion incomparable des forces ?
Je pense que Simmel nous permet de saisir la dimension sociologique et philosophique de l'argent, et pas simplement économique. Savoir que l'argent, c'est en fait un opérateur de totalisation sociale, un opérateur social d'appartenance, dans la mesure où il permet de gommer des hétérogénéités et donc de remettre ensemble des personnes ou des institutions qui sont hétérogènes. Pour Simmel, en fait, il y a trois grandes médiations sociales de la construction des sociétés modernes, qui sont des sociétés différenciées en ordre de vie hétérogène. Vous avez l'État d'un côté, vous avez l'ordre économique de l'autre, vous avez la sphère domestique, vous avez le symbolique, etc. Et les grandes médiations qui font que malgré toutes ces divergences qui se font dans ces sociétés modernes, permettent de faire société, et donc il y distingue la monnaie, le droit et l'intellectualité ou la discursivité, qui sont les trois médiations qui permettent de faire société en dépit de la fragmentation des ordres de vie dans les sociétés contemporaines capitalistes et étatiques.
La monnaie et ce qui permet de faire société, Laurence Cialom, elle doit être étudiée comme une institution sociale ?
Tout à fait. L'approche de Simmel est beaucoup plus riche de ce point de vue que la manière dont nombre d'économistes appréhendent la monnaie. La relation à la monnaie est une relation à la société dans son ensemble. Et d'ailleurs, Georg Simmel dit que la monnaie est une assignation sur la société, une lettre de change sur laquelle le nom de l'intéressé n'est pas inscrit. Et donc cette dimension est d'emblée sociale, et on voit bien que C'est pas du tout l'approche par les fonctions. C'est une approche beaucoup plus puissante et je pense que c'est vraiment un des grands auteurs qui a marqué notamment tous les économistes institutionnalistes de la monnaie.
En quoi est-ce qu'on peut raccrocher cette approche de Georg Simmel et la philosophie qui a présidé à la création de l'euro, Laurent Sielhem?
Alors je pense que justement, la philosophie qui a prévalu pour créer l'euro n'était pas du tout une approche à la Simmel. Au contraire, je pense que, et c'est une des grandes failles d'ailleurs de la construction de la zone euro, c'est qu'on a eu vraiment une vision très technique de la monnaie. Pourquoi est-ce qu'on a adopté l'euro? Eh bien, on a adopté l'euro, quand vous regardez les rapports de l'époque, au nom d'arguments du type lutter contre les coûts des opérations de change, mettre fin aux variations de change entre les pays, et donc approfondir le marché unique, contrecarrer la puissance du dollar. C'est ce genre de motivation, sans se rendre compte à quel point l'objet monnaie est un objet qui est rattaché aux questions de souveraineté. Or, justement, on a créé une union monétaire qui est dénuée de cela, puisqu'on n'a pas de budget fédéral. Et donc, on a créé une union monétaire, dès le départ, qui est très, très bancale, en réalité. Et là, je crois que, justement, on est vraiment à la source la plus fondamentale, si vous voulez, qui est que cette approche très puissante de la monnaie que vous retrouvez chez Simmel et chez d'autres, était complètement hors du champ des créateurs de l'euro.
Et c'est peut-être cette logique économiciste qui explique un certain nombre des problèmes auxquels est confronté l'euro aujourd'hui, Bruno Terret.
Oui, j'apporterai un petit bémol à ce que disait Laurence, parce que d'une certaine manière, dans le projet initial quand même, de construction de l'union monétaire et d'une monnaie commune en fait, c'était quand même espérer un effet d'entraînement pour faciliter la construction politique. C'est-à-dire que l'euro en tant que monnaie de compte commune, il faut bien distinguer la monnaie de compte des instruments de paiement, et là Laurence a tout à fait raison, mais quand même l'idée que l'euro comme symbole d'appartenance à une communauté européenne et comme langage commun de compte qui facilite la communication, c'est quelque chose qui était quand même présent, en tout cas pour beaucoup de gens qui ont soutenu le projet de monnaie en faisant abstraction de tout l'aspect technique qui l'accompagnait, évidemment.
Si on revient un petit peu sur l'histoire de l'euro, ce qu'on constate, Laurent Sielhem, c'est que dès la création du système monétaire européen en 1978, l'idée c'était d'empêcher les dévaluations compétitives et de décourager la spéculation. Pourquoi est-ce que c'était nécessaire?
Effectivement, au moment de la création, au départ du serpent monétaire européen, puis du système monétaire européen, l'idée, ça a été de cheviller plus ou moins strictement les monnaies européennes entre elles, et donc qu'elles évoluent de concert. Et il faut bien voir que ce projet monétaire a été de pair avec, à partir de 86-92, le projet du marché unique. Et ensuite, on a eu le traité de Maastricht, etc. Or, en réalité, vous avez ce qu'on appelle en économie un triangle d'incompatibilité. On appelle ça triangle parce que, vous voyez, triangle, ça a trois côtés. Et en fait, on peut jamais avoir les trois côtés en même temps. Quand vous êtes au point de jonction entre deux côtés du triangle, vous êtes le plus loin possible du troisième. Et c'est quoi les trois côtés? Ça veut dire que vous pouvez pas avoir en même temps des politiques monétaires autonomes, donc une autonomie des banques centrales nationales, des taux de change fixes, et une mobilité parfaite des capitaux.
Pourquoi cela?
Alors, eh bien, parce que ce sont trois caractéristiques qui sont incompatibles. Par exemple, si vous avez des taux de change fixes et une parfaite mobilité des capitaux, vous laissez la possibilité d'avoir des spéculations sur l'échange, la liberté, et donc, de facto, votre politique monétaire pour défendre les taux de change fixes va être contrainte. Si vous avez une autonomie monétaire parfaite et des taux de change parfaitement fixes, ça veut dire que vous n'avez pas une liberté parfaite des mouvements de capitaux. C'est une incohérence logique de le fait de pouvoir avoir ces trois caractéristiques de concert. Et donc d'avoir une liberté parfaite des mouvements de capitaux avec le marché unique et l'approfondissement de l'intégration financière. Qu'on a fait le choix d'échanges fixes et de plus en plus fixes avec le système monétaire européen, eh bien, l'euro était finalement le saut qui faisait que les politiques monétaires nationales n'étaient plus autonomes. Donc, si vous voulez, c'était presque l'aboutissement logique de ce choix qu'on avait fait de liberté des mouvements de capitaux et de change fixe.
Et l'euro répondait aussi au fait que le mark allemand, après l'instauration du système monétaire européen, était devenu la monnaie dominante en Europe, Bruno Terret.
Oui, c'est la France qui a poussé, justement, après avoir mené ces politiques de désinflation compétitive en France à partir des années 83, c'est la France qui a fait le forcing auprès des Allemands pour faire accepter que les Allemands perdent un degré de liberté dans la gestion de l'euro-marque, en fait, puisqu'on s'est aligné sur le marque, d'où la forme qu'a pris la BCE, la Banque Centrale Européenne, sur le modèle de la Bouba. Mais on voyait bien que là, c'était lié au fait qu'on essayait de se fixer au marque allemand, tout en gardant une possibilité de dire son mot dans la gestion de la monnaie commune. Et on a bien vu après que dans la BCE, eh bien, les Allemands, ils se sont fait un peu avoir à un certain moment, puisque quand il y a eu les mesures après la crise de 2008, les Allemands étaient tout à fait opposés à ces mesures.
Et à ces mesures non conventionnelles, on va en parler, mais d'abord, je vous propose d'écouter Jacques Chirac à la veille du lancement de l'euro en 1998.
L'euro, c'est d'abord le fruit de vos efforts et de vos succès. C'est aussi l'expression de votre lucidité et de votre esprit d'ouverture. Car si vous ne l'aviez pas voulu, si vous ne l'aviez pas rendu possible, nous serions restés en dehors de cette grande aventure. Pour nous, Français, c'est une chance. L'euro nous apportera plus de choix dans nos achats, des prix plus bas, de nouvelles parts de marché, de nouvelles possibilités d'investissement et donc d'emploi. Il nous apportera plus de stabilité dans un monde incertain, plus de force face aux grands pôles économiques et politiques qui existent ou se développent sur la planète.
Bruno Terray, que vous inspirent ces propos de Jacques Chirac sur les avantages que l'euro est censé procurer ?
Oui, là, il s'agissait en fait de vendre l'euro en lui faisant croire que l'euro était bénéfique aussi économiquement, alors que tous les économistes américains disaient l'euro n'est absolument pas du tout bénéfique d'un point de vue économique, l'Europe n'est pas une zone monétaire optimale, c'est-à-dire qu'elle ne présente aucun avantage économique du point de vue d'avoir une union monétaire parce que les pays sont trop hétérogènes, etc., etc. Voyez, et donc, il s'agissait de vendre. Alors, en plus, il y a eu des études qui ont montré, entre guillemets, que ça allait apporter un surcroît de croissance, que ça allait avoir des effets bénéfiques, etc., en disant, vous voyez, le gâteau à partager va être beaucoup plus gros si on passe à l'euro et on pourra redistribuer, et tous les pays y trouveront leur intérêt. C'est un peu comme la théorie du ruissellement, si vous voulez. Le gâteau est plus gros, donc ça va pouvoir ruisseler sur tous les pays, etc., indépendamment des inégalités qui existaient déjà entre les pays. Mais la promesse n'a pas été tenue, évidemment, d'où les problèmes après, etc.
Il y avait cette nécessité de vendre l'euro, entre guillemets, Laurent Cialom, à la population, à cause du sacrifice que représentait l'abandon de la souveraineté monétaire.
Alors en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on adopte une monnaie commune à plusieurs États, comme c'est le cas, on abandonne un outil majeur de politique économique, qui est le fait de pouvoir dévaluer son taux de change. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passait, par exemple, au préalable, quand vous aviez une inflation qui était supérieure à celle de vos partenaires commerciaux et donc que vous perdiez en compétitivité prix? Il y avait toujours la possibilité de dévaluer la monnaie. Et en dévaluant la monnaie, alors certes, c'était un peu inflationniste, mais vous aviez un moyen, si vous voulez, de récupérer un peu de compétitivité prix, avec des effets pervers évidents également. Hein, mais bon. Mais donc, vous perdez vraiment un instrument.
Et quel problème est-ce que cela pose de perdre cet instrument, justement ?
Ça pose un problème quand vous n'avez pas de variable d'ajustement alternative si, dans la zone, vous avez un choc asymétrique. C'est-à-dire que, vous voyez, quand vous avez un choc qui atteint un pays ou alors une partie de la zone et pas le reste, il faut bien qu'il y ait un moyen d'intervenir de manière différenciée dans cette partie de la zone monétaire relativement aux autres. Alors, si vous avez un budget fédéral, une partie du choc est absorbée par le budget. Vous avez donc de la redistribution interrégionale, en l'occurrence là, entre les États, automatique. Sinon, les autres variables d'ajustement possibles, ben, c'est la mobilité du travail. Hein. C'est-à-dire, mais on sait bien que comme notamment en raison d'obstacles de langue, la mobilité du travail est assez faible en réalité en Europe. Vous avez la mobilité des capitaux. Mais vous voyez, aujourd'hui, par exemple, les capitaux en Europe, il y a plutôt une fragmentation financière. Donc, vous avez un ensemble de variables qui permettent d'absorber éventuellement des chocs asymétriques. Le problème étant qu'on a adopté l'euro alors que nous n'étions pas une zone monétaire optimale. Mais à la limite, ça, c'est pas vraiment un problème parce que les États-Unis n'en étaient pas un quand ils ont adopté le dollar, mais ils le sont devenus. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas adopté le budget fédéral, qui était le complément à l'Union, qui aurait permis justement de compenser en partie la perte de l'instrument du change.
Une union monétaire et non pas une union budgétaire, on le comprend bien, Laurent Sciala, mais peut-être qu'il faut rappeler tout de même les missions premières de la Banque Centrale Européenne et le fait que à l'origine, la première mission qu'elle est censée effectuer, c'est celle de la lutte contre l'inflation. Bruno Terray.
Oui, c'est son objectif unique, en fait, c'est la stabilisation monétaire. Mais alors là, il faut aussi faire intervenir une autre variable un peu externe, c'est la pensée économique qui a beaucoup évolué dans cette période à partir des États-Unis, à partir de 72. C'est-à-dire que vous avez maintenant une doctrine de la monnaie qui a été adoptée à la Banque centrale, qui est cette doctrine de la crédibilité. Si vous voulez que la politique monétaire soit crédible, il faut que, justement, la Banque centrale soit indépendante du pouvoir politique. Il faut gouverner les anticipations. C'est-à-dire que là, c'est lié à toute une évolution de la pensée économique néolibérale, ce qu'on appelle les nouveaux classiques ou les nouveaux keynésiens, qui considèrent que il faut neutraliser la monnaie et on peut le faire en gouvernant les anticipations et en jouant sur une politique qui maintient ce qu'on appelle le ciblage de l'inflation en fixant une norme d'inflation qui est... Voilà.
Vous avez un exemple sur ce pilotage des anticipations ?
Bien sûr. Alors que les banques centrales, dans la période précédente, cultivaient le secret de leurs mesures, comme l'a dit Laurence tout à l'heure, quand on préparait une dévaluation, il fallait pas que ça se sache, parce que sinon, si on préparait une dévaluation, tout le monde était au courant, les marchés intervenaient et rendaient impossible la dévaluation, lui donnaient un coût trop élevé. Tandis que maintenant, la politique de la Banque centrale, c'est de parler au marché, c'est de parler à la population. Donc, le discours des banquiers centraux est devenu une variable de politique monétaire. D'ailleurs, souvent on dit c'est le second canal de la politique monétaire, il y a la gestion des taux d'intérêt sur les prêts, mais il y a aussi ce gouvernement des anticipations par le discours des banquiers centraux, etc.
Et l'un des discours qui a particulièrement marqué après la crise de 2008, c'est celui de Mario Draghi le 26 juillet 2012.
And so we view this, and we are not. I don't think we are unbiased observers in Frankfurt. We think.
Nous pensons, et je crois que nous sommes des observateurs objectifs ici à Francfort. Nous pensons que l'euro est irréversible, et ce n'est pas un mot vide de sens. Ce sont nos actes qui l'ont rendu et le rendront irréversible. Dans le cadre fixé par son mandat, et j'insiste sur ce point, dans le cadre fixé par son mandat, la BCE est prête à faire tout ce qui est en son pouvoir pour préserver l'euro. Et croyez-moi, cela sera suffisant.
And believe me, it will be enough.
Mario Draghi, alors président de la BCE, et son fameux « whatever it takes », quoi qu'il en coûte, c'était le 26 juillet 2012. La BCE a alors pris toute une série de mesures dites non conventionnelles, Laurent Sciala.
Alors, la politique du quantitative easing date d'un peu plus tard, mais effectivement, on a commencé à avoir des mesures non conventionnelles à partir de ce moment-là, mais surtout, à ce moment-là, ce qui est incroyable, c'est on voit comment la parole du banquier central suffit à calmer les marchés. Ce « whatever it takes », d'ailleurs, qui a fait vraiment école, puisqu'on a bien vu, le président de la République l'a répété plusieurs fois dans ses discours. Donc, « whatever it takes », c'est devenu une expression maintenant qui peut être mobilisée à d'autres occasions pour montrer une détermination sans faille. Et donc, ça voulait dire quoi ? Ça veut dire que simplement qu'une banque centrale a la capacité de créer autant de monnaie qu'elle le souhaite. Et en l'occurrence, comment est-ce qu'elle la crée là, ou qu'elle se proposait de la créer ? C'est, elle disait, ben, j'achèterai de la dette publique, si nécessaire, autant qu'il le faudra pour sauver la zone euro. Et à ce moment-là, on voit que la BCE, et c'est là qu'on est face à un paradoxe incroyable, qui est une institution non démocratique. Bruno Terray a précisé tout à l'heure que, effectivement, on est dans un régime où les banques centrales sont indépendantes du pouvoir politique. Elles ne rendent pas tellement de comptes, en fait. Et en réalité, c'est cette institution qui a sauvé la zone euro véritablement, qui a calmé les marchés, qui a permis de réduire les spreads, et qui finalement, depuis cette époque, disons depuis le début de la crise de la dette souveraine, on a l'impression que c'est finalement, il n'y a que cet acteur en Europe qui a véritablement une vision de l'avenir de la zone euro, qui préserve la zone euro, et qui finalement est la seule instance véritablement politique face à, disons, une certaine incurie de l'intergouvernemental en Europe.
Après la crise de 2008, la BCE a donc élargi son périmètre d'intervention et c'est ce qu'elle continue à faire aujourd'hui, Bruno Terray, avec ce plan massif de 750 milliards d'euros débloqué par la BCE pour soutenir l'économie européenne.
Oui, mais alors là, ça risque d'être un coup dans l'eau puisque maintenant, il y a la crise de 2008 est déjà passée par là et les politiques non conventionnelles ont été des échecs massifs puisque d'abord, elles ont été associées à des politiques d'austérité puisque le « whatever it takes », il s'accompagnait quand même de conditionnalités. Il n'a jamais été mis en œuvre réellement, hein, mais il s'accompagnait de conditionnalités assez drastiques, et on l'a vu avec le cas de la Grèce après, ça a été un travail pratique, là où le refinancement par la Banque centrale s'est fait à travers des politiques d'austérité et une politique récessionniste, etc. Et donc, dans la période actuelle, il y a beaucoup, y compris dans la finance, de gens qui pensent que le quantitative easing qui se borne à refinancer le système bancaire tel qu'il est en achetant sur le marché secondaire, par exemple, des dettes publiques, eh bien, il est incapable de relancer l'économie, en fait. Il peut sauver le système financier, le système bancaire, mais il ne relance pas l'économie puisqu'on est dans une crise, ce qu'on appelle de récession de bilan. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus de demande de crédit de la part des entreprises et des ménages, en fait, au niveau macroéconomique, bien sûr. Et donc, il n'y a plus de demande. Et que donc, on ne peut pas relancer monétairement à travers le crédit bancaire l'économie dans la mesure où les entreprises sont occupées à réduire, à minimiser leurs dettes, puisque du fait de la crise financière, eh bien, leur passif et rester constant alors que la valeur de leurs actifs ont été dévaluées par la crise financière. La solution, c'est directement à la puissance publique de relancer l'économie puisque le système capitaliste en lui-même, avec les taux d'intérêt négatifs, etc., n'a plus aucune efficacité pour sortir de la récession. Et on est dans une crise qu'on appelle de debt deflation, etc., et qui, oui. De trappe à liquidité, on reviendra peut-être dessus, etc.
Laurence Yalom, pour vous aussi, ce plan de 750 milliards d'euros ne sera pas suffisant?
Alors, probablement pas suffisant, mais je ne serai pas aussi critique que l'a été Bruno Terray. Je pense qu'effectivement, du point de vue de la relance économique, alors je vais d'abord parler des politiques de quantitative easing qui ont été faites précédemment, des politiques qu'a mis en œuvre la Banque Centrale Européenne. Certes, ça n'a pas relancé l'économie européenne, mais on est, je pense, dans une situation largement de stagnation séculaire. On a des risques déflationnistes qui sont très importants. Vous disiez tout à l'heure que le mandat de la Banque Centrale Européenne, c'est de lutter contre l'inflation. Non, c'est de préserver la valeur de la monnaie et de respecter sa cible d'inflation. Mais ce qu'elle a fait, en fait, depuis la crise de la dette souveraine et de manière massive à partir de 2015, c'est d'essayer de lutter contre la déflation, c'est-à-dire le risque de baisse des prix, parce que là, on ne sait pas quoi faire quand les prix baissent. Il y a une limite à ce que les taux soient négatifs, et cette limite, elle est liée au fait qu'on peut toujours convertir en cash, hein, et que le cash, ça ne porte pas intérêt. Et donc, je ne serais pas aussi critique.
Mais au moment de la création de la BCE, c'était vraiment l'inflation qui apparaissait comme la peur et la chose à éviter.
Bien sûr, et c'est ça qui est tout à fait incroyable, hein. C'est que quand vous voyez les discours aujourd'hui sur l'action de la BCE, on vous dit « oh là là, attention, ça va créer de l'inflation, etc. » Mais il faut de l'inflation, bien sûr qu'il faut de l'inflation. On a besoin d'inflation pour dévaloriser la dette. Et donc là où je suis moins critique que ne l'a été Bruno Terray, c'est que la réussite quand même, ça a été la mise hors marché d'une certaine manière de la dette publique, et donc le fait de parvenir à réduire les spreads et à maintenir que les pays les plus endettés parviennent à s'endetter à des taux qui reste tout à fait raisonnable. Et pour l'instant, la BCE parvient encore à le faire. Alors, ça ne suffira pas du tout à relancer l'économie, hein, mais de ce point de vue-là, c'est une réussite.
La BCE se porte en fait garante pour les pays du Sud, comme l'Italie, qui auraient autrement des difficultés à se financer. Et alors, il faut peut-être expliquer donc que le spread, c'est cet écart entre les taux d'intérêt des différents pays européens. Aujourd'hui, on considère que le spread n'est pas trop important, par exemple, entre l'Allemagne et l'Italie. Laurence Yalom.
Alors, il y a un spread entre l'Allemagne et l'Italie, bien sûr. Je n'ai pas été regardée aujourd'hui, hein, mais Christine Lagarde a fait une erreur. Je crois que c'était le 12 mars quand elle a dit « ce n'est pas le rôle de la BCE de s'occuper de réduire les spreads ». Elle a très très vite corrigé le tir, hein, notamment avec le programme pour l'urgence pandémique dont vous avez parlé. Et à partir du moment où il a été clair que la BCE ferait tout pour réduire les spreads, ceux-ci se sont réduits. Alors, l'Italie ne s'endette pas au taux de l'Allemagne, puisque l'Allemagne s'endette toujours à taux négatif, mais en tout cas, à un taux très inférieur à ce qui serait si on laissait les marchés agir. Alors, pour autant, effectivement, elle ne relance pas l'économie, on est bien d'accord. Et de ce point de vue, c'est d'autres outils, et c'est évidemment la politique budgétaire qui doit être à la manœuvre.
Eh bien, justement, écoutons Christine Lagarde, donc la présidente de la BCE, qui cherche à recréer la confiance. C'était lors d'une interview à la chaîne américaine CNBC le 12 mars.
Nous utiliserons nos instruments afin de soutenir la zone euro et éviter les risques de dislocation. Cela ne fait aucun doute pour moi que c'est la marche à suivre. Nous avons une totale flexibilité. Il n'y a pas de montant mensuel prédéfini. Nous pouvons cibler les besoins et les risques. C'est la flexibilité numéro 1. La flexibilité numéro 2 est de cibler les risques et décider de là où nous allons intervenir. Si c'est dans le secteur public, si nous voyons un risque de dislocation, de fragmentation de quelque sorte que ce soit, nous allons évidemment déployer cet outil en direction de ce risque. Et comme je l'ai dit, si cela implique de dévier des clés de répartition du capital, nous le ferons également.
Bruno Terret, Christine Lagarde a voulu envoyer le signal qu'elle soutiendrait les pays en difficulté au sein de la zone euro.
Oui, bien sûr, là, puisque c'est la stabilité financière. Maintenant, ils sont aussi investis d'une mission prudentielle pour assurer la stabilité financière. Mais si vous voulez, comme l'a dit Laurence Yalom, ça, c'est une solution de sauvegarde, mais ça n'est pas une solution qui permet de changer quoi que ce soit. On stabilise, on maintient, mais il n'y a pas de porte de sortie qui s'affiche là. Vous voyez, c'est ça. Quand j'entends Laurence Yalom dire aussi que c'est à la politique budgétaire uniquement d'assurer la reprise économique, là, on peut en douter. Il y a un conflit de doctrine au niveau des économistes. Toute l'économie néoclassique pense que la monnaie est neutre. Alors, il y a des degrés, soit elle est neutre à long terme, on accepte qu'elle ne soit pas tout à fait neutre à court terme, mais il faut alors la neutraliser et obliger la banque centrale qui se charge de la stabilisation monétaire, c'est en fait rechercher à neutraliser la monnaie. Ce n'est pas à la monnaie de créer des effets économie, puisque le marché lui-même est autorégulateur et que surtout, donc, la monnaie ne doit pas intervenir, puisque dans le modèle d'équilibre général, l'équilibre, il est sans monnaie. Alors, il y a une autre école qui considère que, au contraire, la monnaie, c'est la base du développement économique dans les économies capitalistes étatiques et que elle a des effets distributifs, elle a des effets de stimulation de l'économie. C'est toute l'école keynésienne, institutionnaliste. En général, on entend effectivement qu'il n'y a que deux moyens pour relancer l'économie dans la période post-Covid. C'est l'impôt.
Alors, on va peut-être pas aller directement aux solutions, Bruno Terret, pardonnez-moi. Je voudrais faire d'abord intervenir Laurence Yalom sur ce que vous venez de dire. Effectivement, on peut souligner que, par exemple, dans le cahier des charges de la Fed, la Banque Centrale Américaine, il y a la mission d'assurer le plein emploi. Est-ce que cela correspondrait à cette deuxième vision de la monnaie plus politique? Qu'est-ce que vous en pensez, Laurence Yalom?
Le gros problème qu'on a, c'est que on est dans des régimes monétaires où la création monétaire n'est pas ciblée sur des usages particuliers. C'est-à-dire que, en gros, depuis 30, 40 ans, une grande partie de la création monétaire n'alimente pas essentiellement l'économie réelle, mais finance des actifs qui sont des actifs déjà existants. C'est-à-dire des actifs immobiliers, c'est-à-dire des actifs financiers. Et d'ailleurs, ça a beaucoup à voir avec l'hypertrophie de la finance que l'on connaît, hein. C'est-à-dire que les dérives du crédit s'accompagnent d'instabilité financière, en partie pour ces raisons-là. Je pense que pour que la monnaie puisse avoir effectivement ce rôle très fort de soutien de l'économie, il faut changer cette doctrine monétaire dans laquelle on est depuis le néolibéralisme en réalité, hein, et accepter l'idée qu'il faut cibler la création monétaire sur des usages particuliers que la société définit comme étant des usages prioritaires.
Bruno Terret ?
Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Laurence, mais je pense que la BCE est incapable de faire ce saut. C'est pour ça que je parlais de ces nouveaux quantitative easing qui sont des coups d'épée dans l'eau. Ça stabilise les États à un moment donné, ça stabilise une situation. Mais du point de vue vraiment de la dynamique économique, ça ne marche pas. Et pourquoi ça ne marche pas? C'est parce que la BCE, est intrinsèquement, elle est encastrée dans les marchés financiers. En fait, c'est une création financière. Ça n'est pas un prêteur en dernier ressort, maintenant, la Banque centrale. Elle fait des affaires en dernier ressort, sur le modèle de la finance. Voilà.
Alors, la BCE pourrait-elle aller plus loin pour relancer l'économie européenne? Et l'euro pourrait-il véritablement devenir un projet politique? On entend que vous n'allez pas être d'accord, mais en tout cas, on en discute dans un court instant.
Spending 'cause I'm all alone. Girl, I wanna make you mine. Can't you give your heart to me? I would give you every dime. You're more than I could ever be.
Écoutez Money de Michael Kiwanuka avec Tom Misch sur France Culture dans Entendez-vous l'écho. Nous sommes toujours en compagnie des économistes Laurence Sialhomme et Bruno Terray qui rêvent peut-être d'une monnaie solidaire qui s'appellerait l'euro. Alors la crise du coronavirus a relancé le débat sur la mutualisation des dettes européennes. En 2012, face à la crise financière, des eurobonds avaient été envisagés. Écoutez Jean-Claude Trichet, l'ancien patron de la BCE, interviewé chez nos confrères de France Inter.
Ce que l'on entend aussi par Eurobonds, c'est la mutualisation de l'ensemble des dettes des pays européens. Et là, s'agissant de la dette à venir, cela veut dire tout simplement que l'ensemble des pays accepterait d'être garant, c'est-à-dire d'être caution, d'être conjoint et solidaire dans ces engagements nouveaux. Alors, est-ce que, en effet, l'ensemble des concitoyens du pays X sont prêts à contre-garantir les dépenses de tous les concitoyens du pays Y? Comme vous le voyez, ça suppose, si on a cette conception des eurobonds ou des obligations européennes, cela suppose un formidable niveau de fédération politique.
On les appelait eurobonds hier, corona bonds aujourd'hui, mais il s'agit finalement du même débat, Laurence Sialhomme.
Oui, en fait, l'idée, c'est quand vous avez de fortes tensions dans la zone euro, c'est-à-dire avec des pays dont la signature est considérée comme plus fiable que d'autres parce qu'ils sont moins endettés, parce qu'ils ont des excédents courants, etc., et d'autres pays qui sont considérés comme une signature moins fiable, à ce moment-là, ceux qui ont la moins bonne signature, entre guillemets, s'endettent plus cher que les pays du Nord, en gros, que l'Allemagne, les Pays-Bas, etc. Donc, en fait, l'idée des Corona Bonds ou des Euro Bonds, c'est d'émettre des dettes jointes. C'est-à-dire que l'ensemble des pays de la zone soit conjointement responsable du remboursement de cette dette. Et donc, du coup...
Mais de cette nouvelle dette, c'est important de le préciser. On va mutualiser les déficits supplémentaires.
Tout à fait. Et donc, de ce fait, le taux auquel cette nouvelle dette peut être émise, eh bien, c'est un taux qui est plus bas pour les pays du Sud, disons, pour c'est pas vraiment une caricature, mais disons, pour l'Italie, ça lui permettrait de s'endetter à un taux inférieur. Par contre, ça signifierait un taux qui est plus fort pour l'Allemagne. Et puis surtout, ça veut dire que là, pour le coup, c'est un acte de solidarité interétatique excessivement fort, le fait d'apposer sa signature sur une dette jointe.
Ce qui explique que un certain nombre de pays du nord de l'Europe, les pays dits frugaux, se sont opposés à cette mutualisation des dettes qui aurait été effectivement un pas vers une intégration européenne plus forte, Bruno Thérème.
Oui, oui, tout à fait. Mais alors l'intervention de Trichet est très intéressante parce qu'il a tout à fait raison. Ça suppose résolu le problème actuel dans l'Europe où on a vu un éclatement de la solidarité européenne. Déjà avec le cas grec et avec le Chypre et surtout maintenant. Et donc, quand on voit le niveau d'éclatement de l'Europe, on se demande comment on pourrait arriver à ça. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire avec la BCE, à condition qu'il y ait une volonté derrière d'arriver à de la solidarité entre les gouvernements européens.
Il y a la solidarité, mais il y a aussi le manque de confiance entre les pays de la zone euro. C'est la peur de devoir payer pour les mauvais choix budgétaires d'un autre pays, Laurence Sialom.
Oui, mais là, en l'occurrence, dans la crise actuelle, on ne peut pas dire que c'est parce que l'Italie, l'Espagne n'ont pas été les bons gestionnaires que, comme une punition divine, ça serait sur eux que serait tombé le coronavirus plus qu'ailleurs. Vous voyez, c'est pas un problème là d'aléa moral. Et donc, je pense, à mon sens, que la crise aujourd'hui est encore plus existentielle qu'elle ne l'a été au moment de la crise de la dette souveraine préalable, qui a commencé à partir de 2010, parce que là, pour le coup, les pays dits frugaux, notamment la position très maximaliste des Pays-Bas, par exemple, apparaît éthiquement complètement inadaptée. Enfin, je veux dire, c'est excessivement choquant pour les populations en Italie et en Espagne, ce manque de solidarité à un moment où, évidemment, on ne peut pas leur reprocher un quelconque laxiste, mais c'est la fatalité. Et c'est même en pire, l'état de l'hôpital et du système de santé de ces pays, et donc leur difficulté, si vous voulez, à réduire la morbidité, est très largement due aux politiques que l'Europe leur a imposées suite à la crise des dettes souveraines. Donc, vous voyez, on est face à une crise existentielle et qu'on peut tout à fait avoir une sortie de la zone euro qui arrivera par les urnes, tout simplement. D'où l'importance, aujourd'hui, de prendre des mesures totalement iconoclastes, quoi, et des mesures de rupture.
Vous partagez ce point de vue, Bruno Thérème, ça met en lumière encore plus les fragilités de l'Europe?
Ah oui, bien sûr, oui. Alors, peut-être aussi que ça peut être une chance pour une modification de la BCE. Mais il faudrait que ce soit les statuts de la BCE qui évoluent. Parce que actuellement, la BCE fonctionne largement en dehors de son statut initial. Il n'a jamais été corrigé. La BCE est censée avoir un pouvoir illimité d'émission monétaire. Et la BCE ne peut pas faire faillite. C'est-à-dire que la BCE est dans une position vraiment souveraine. De ce point de vue-là, puisque quel est son talon d'Achille à la BCE? Ben, c'est justement que l'euro disparaisse, que l'union monétaire se fragmente, etc. À ce moment-là, la BCE pourrait disparaître. Et donc, pour la BCE, le maintien de l'euro est une condition en tant qu'organisation propre, indépendante, qui a ses logiques, etc. Et donc là, avec la montée, justement, par exemple, si on prend le cas du soutien à l'Italie, normalement, quand la BCE fait des rachats de dettes publiques, elle ne doit pas aller au-delà des parts que les différents États possèdent de la Banque Centrale Européenne. Parce que.
Mais elle s'est affranchie de cette règle.
Et justement, et là, les Italiens, c'est 18%, leur part dans le capital de la BCE, elle est allée jusqu'à 32%. Mais elle le fait avec une modalité arbitraire. Et là, il n'y a eu aucune discussion sur ça. Et vous faites monter l'acrimonie dans le pays d'à côté qui dit « Ah ben moi, vous m'avez pas financé autant, etc. » Vous voyez, donc là, il y a besoin d'une réforme en profondeur de la BCE qui passe par de nouveaux traités. Or, ça, À court terme, c'est impensable ou c'est trop tard. C'est comme nous, les masques, les tests, etc. Ça manque et on ne veut pas à court terme les obtenir. Et donc, c'est pour ça qu'il faut penser à d'autres types de politiques que d'attendre la sortie de crise de la BCE.
Laurent Cialom, il y a un enjeu aujourd'hui de rendre la Banque Centrale Européenne plus démocratique ?
Oui, ça c'est évident. Je ne pense pas que ce soit l'urgence, dans la mesure où là on est dans une crise tellement aiguë qu'on n'en est pas à la réforme structurelle. Ça viendra dans un deuxième temps, mais de toute manière, depuis la crise de la dette souveraine, la BCE n'arrête pas en fait d'avoir des actions qui outrepassent ou qui interprètent de manière très laxiste et son mandat et le traité de fonctionnement de l'Union européenne. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a eu plusieurs recours qui ont été faits qui lui ont donné raison. Mais si vous voulez, c'est toujours ex poste que ça se passe. À plus long terme, c'est indispensable que la Banque Centrale Européenne rende des comptes, notamment devant le Parlement européen. Mais à très court terme, il faut qu'elle arrive à être encore plus transgressive qu'elle ne l'a été.
Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho, Tiphaine de Rocchini.
Les économistes Laurent Cialom et Bruno Terret sont toujours avec nous pour parler de la monnaie unique comme possible rempart face à la crise. Alors, pour certains économistes, il faut apporter des liquidités à l'économie réelle et non pas seulement à la sphère financière. Et cela peut passer par la fameuse monnaie hélicoptère. Rappelez-nous de quoi est-ce qu'il s'agit, Laurent Cialom ?
Alors, la monnaie hélicoptère, c'est une idée qui est ancienne, hein, qu'on retrouve chez Friedman, qu'on retrouve chez plein d'économistes, en fait. C'est une idée qui transgresse un peu les frontières des écoles de pensée, vous voyez. Et donc, l'idée, c'est que la monnaie, notamment enfin dans sa version contemporaine, hein, ça serait que la banque centrale court-circuite le canal de transmission que sont les banques et crédite directement le compte des particuliers, des entreprises. Alors, si c'est de l'État, ben, c'est de la monétisation, hein. Donc voilà, l'idée, c'est de ne pas passer par le canal de l'intermédiation des banques. Et donc, directement, de faire une création monétaire nette, c'est-à-dire qui n'a pas de contrepartie. C'est ça la grande différence.
Et ce serait un moyen de relancer la demande et la consommation ?
Tout à fait. L'idée, c'est ça. On a injecté des quantités phénoménales de liquidités après la crise de 2008, après la crise des dettes souveraines, etc. Le bilan de la Banque centrale s'est considérablement accru parce qu'elle achetait des titres aux banques. Et donc, quand elle achète un titre aux banques, elle le met à son bilan et en contrepartie, elle donne de la liquidité très peu chère aux banques qu'elle finance. Et ce qu'on voit, c'est que ces liquidités n'ont pas été dans le soutien à l'économie, n'ont pas financé l'économie réelle. Alors, en grande partie parce qu'il y a très peu de demandes en réalité. On est dans une crise de demande très forte. Donc, l'idée, c'est que pour soutenir la demande, eh bien, on court-circuite ce canal-là et directement, on crédite le compte des ménages et des entreprises.
Je vais faire intervenir Bruno Terret, mais d'abord, qu'est-ce que vous pensez, Laurent Cialom, de ce mécanisme ? Est-ce qu'il est susceptible de relancer l'économie ?
Alors oui, bien sûr, je pense que ça serait beaucoup plus efficace que ce qui est fait actuellement, ça c'est certain. On est dans une vraie crise de demande, donc c'est une option qui est tout à fait envisageable. D'ailleurs, ça fait énormément de débats, hein, pas seulement en France. L'idée de la monnaie hélicoptère, on la retrouve un petit peu partout. Hein. Il faut noter également qu'il y a des idées un peu apparentées hein, qu'on trouvait dans la campagne de Bernie Sanders, par exemple. Mais là, c'était carrément pour financer le système de santé.
Vous voulez dire que ça se rapproche des idées autour du revenu universel ?
Alors, la seule chose qui me gêne un peu dans cette idée, c'est que j'estime que c'est à l'État de définir qui doit recevoir et combien. C'est-à-dire que l'idée de donner à tout le monde la même somme sans qu'il y ait de discrimination et de pas donner plus à ceux qui en ont plus besoin, ça c'est quelque chose qui me gêne. C'est pour ça que personnellement, je préfère que la monétisation et le don d'une certaine manière que fait la Banque centrale, parce que c'est un don puisqu'il ne s'en a pas de contrepartie, eh bien il soit fait à l'État, et qu'ensuite ce soit redistribué, enfin, la proposition qu'on porte n'est pas exactement celle-là, mais si vous voulez, c'est ça qui me gêne. Mais sinon, évidemment, je pense que dans sa formulation actuelle, qui serait effectivement, par exemple, de créditer, je sais pas moi, 200 euros par mois le compte des ménages, ça ressemble effectivement beaucoup au revenu universel tel qu'il a été débattu lors de la dernière campagne présidentielle, sauf que ce revenu universel n'était pas financé monétairement, mais était financé fiscalement. Mais pour le ménage, c'est la même chose.
Bruno Terret, sur cette idée de monnaie hélicoptère.
Je suis tout à fait d'accord avec Laurent Cialom. Là, le problème, c'est quelle est l'autorité de la BCE pour affecter cette monnaie créée, la distribuer aux entreprises, aux ménages ou aux États. Donc, la seule solution qui est viable pour la BCE, ça serait qu'elle donne cet argent à l'État et que l'État décide. Et là, on monétise, c'est une forme de monétisation. faut savoir que la monnaie hélicoptère, c'est une pensée qui vient de pays où il n'y a pas de différence entre la souveraineté monétaire et la souveraineté politique. Et la Banque centrale est indépendante, mais à des degrés beaucoup plus faibles que n'est indépendante la BCE vis-à-vis de l'ensemble des États membres de l'Europe. Et donc, ce problème de savoir comment distribuer la monnaie hélicoptère pour optimiser ses effets de relance économique et de soutien, là, ça se pose pas aux États-Unis, en Angleterre, etc. Ça se pose pas. Tandis que du fait que la BCE est quand même une banque centrale qui est très, très différente des autres banques centrales, puisque toutes les banques centrales du monde, elles sont adossées à un État à la même échelle qu'elles. Tandis que la BCE n'est pas adossée à un État à la même échelle qu'elle-même. Et c'est le problème. On tombe donc dans une approche en termes de monétisation, c'est-à-dire que c'est la banque centrale qui va affecter à l'État une masse de monnaie hélicoptère. Alors le problème est de savoir qui va décider de combien. Et deuxièmement, comment ça va être distribué entre les différents États de la zone euro. Là encore, est-ce qu'on va prendre les parts de capital de chaque État dans le capital de la BCE, etc. Vous voyez, là, il y a des vrais problèmes. Comme il y a des dissymétries, est-ce qu'on prend une grille, une structure de capitaux des États pour redistribuer, ou est-ce qu'on prend d'autres indicateurs qui sont les taux de pauvreté ou des choses comme ça?
Les autres banques centrales fournissent des exemples intéressants dont on peut s'inspirer. La Banque centrale d'Angleterre, par exemple, a ouvert au Trésor anglais une ligne de crédit qui lui évite d'avoir à passer par le marché obligataire. Alors, est-ce que les États, les pays de la zone euro pourraient eux aussi se refinancer directement auprès de la BCE, Laurent Fialom?
Alors, actuellement, c'est pas possible. Ça serait vraiment une transgression là évidente des traités, puisque le traité de fonctionnement de l'Union européenne interdit les découverts, interdit les achats sur le marché primaire. Alors par contre, il y a un silence des traités sur le fait que la BCE fasse un don. Ça n'est pas explicitement interdit par les traités. Et c'est précisément pour ça que nous pensons, avec Baptiste Bridonneau, dans deux notes que nous avons faites pour le think tank Terra Nova, qu'une des solutions, ça serait en fait des abandons de dette publique, c'est-à-dire un don. La BCE dit, bah voilà, 100 milliards dont je ne demande pas le remboursement, mais en contrepartie, vous êtes obligé de les investir dans la transition écologique, ce qui permet en plus d'orienter la reprise sur le chemin que l'on doit suivre si l'on veut respecter les accords de Paris.
Mais alors si la BCE renonçait à l'argent que les États lui doivent afin que ces derniers l'utilisent pour l'investir, comme vous nous l'avez expliqué, est-ce que cela ne provoquerait pas une forte défiance de la part des marchés, Laurent Fialom?
Je crois que c'est exactement l'inverse. On est dans des régimes de monnaie fiduciaire. Ça veut dire que c'est basé sur la confiance. Vous voyez, on est dans des régimes monétaires qui ne sont pas du tout basés sur un métal ou sur... On n'est pas chevillé à une autre monnaie. Ce qui fait la confiance qu'on a dans l'euro, c'est uniquement la confiance dans la perpétuation de l'euro. Vous voyez, vous acceptez un billet de 50 euros, qui est un billet dont le coût marginal de production est nul, et pourtant vous acceptez, vous vous dites, je vais avoir 50 euros de pouvoir d'achat. Et vous l'acceptez parce que vous pensez que demain il en sera ainsi, dans un mois il en sera ainsi, dans un an il en sera ainsi. Donc c'est vraiment une confiance dans la société, dans son ensemble. Et là, on retrouve d'ailleurs les propos de Zimmel. Et donc, finalement, si la BCE faisait ça, c'est-à-dire annulait une partie des dettes publiques qu'elle détient des États, et qu'en contrepartie, elle finance finalement le Green New Deal, c'est-à-dire qu'elle finance un futur européen d'une planète qui serait plus vivable, d'une reconversion écologique à laquelle les populations aspirent, c'est une grande préoccupation de plus en plus des populations, vous voyez bien qu'au contraire, non seulement elle aurait sauvé la zone, mais en plus de ça, elle aurait amorcé le grand projet qui est transfrontière, vous voyez. Si on réduit les émissions de CO2, ça s'arrête pas à la frontière. Donc tout le monde en bénéficie. On est face à ce qu'on appelle un bien public global. Et donc je pense au contraire que ça serait un profond renforcement de la crédibilité de la BCE.
Bruno Terret, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition, l'annulation des dettes publiques que détient la BCE?
C'est très intéressant, mais moi ce qui me gêne, c'est de conforter la position de souveraineté de la Banque Centrale Européenne dans les institutions européennes.
On va faire répondre Laurent Fialom.
L'idée, évidemment, n'est pas de diminuer l'endettement public, mais par ces annulations, de redonner des marges de manœuvre budgétaires pour amorcer la transition écologique au niveau où elle doit être faite. D'accord. Le problème démocratique, en fait, qui est que la BCE n'a pas à décider où on doit investir, on le contourne par le fait que ça serait le Parlement européen qui déciderait, en fait, de l'usage de ces fonds et de leur affectation. Enfin, si vous voulez, c'est une réponse au fait que la crise du Covid actuelle va considérablement augmenter la dette publique. Le risque qu'on a au sortir de cette crise, c'est que les États soient tentés de revenir à leur tropisme habituel qui est de se désendetter. Et donc, du coup, que cette crise du Covid annihile toute possibilité de transition écologique. Donc, cette option que l'on propose permet de faire que toute cette nouvelle dette qui aura été acquise par la BCE, en fait, ça serait plutôt de l'ancienne dette, mais soit reconvertie d'une certaine manière dans la transition écologique et donc d'ouvrir un peu l'espace des possibles plutôt que de le refermer avec cette crise.
Mais en annulant une partie de la dette, est-ce qu'on ne risque pas, Laurence Cialom, de renier les économies d'une partie des ménages français qui possèdent cette dette publique?
Ah non, justement, non. C'est bien toute la chose. Là, on ne propose pas une annulation de dette par tous ceux qui détiennent de la dette, pas du tout. Non, on ne propose qu'il n'y ait que la BCE. Or, la BCE, comme toutes les banques centrales, sont des institutions qui sont les seules à pouvoir fonctionner avec des capitaux propres négatifs. Pourquoi ? Parce que leur passif, ce n'est pas de la dette vis-à-vis de tel ou tel, c'est une dette vis-à-vis de l'ensemble de la collectivité. Et donc, ça veut dire qu'elles peuvent émettre autant qu'elles le veulent. Donc, si vous voulez, elles ne sont pas endettées au sens usuel du terme. Et ce faisant, elles n'ont pas de contrainte de bilan. La seule contrainte qu'il pourrait y avoir, c'est plus d'inflation. Mais à ce moment-là, il peut arrêter de faire ses opérations et on a les outils pour lutter contre l'inflation.
De votre côté, Bruno Terret, vous faites une distinction entre ce que vous appelez la dette sociale et la dette souveraine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Je pars d'une théorie de la souveraineté et du concept de dette de vie. C'est-à-dire que le souverain, c'est ce qui ne meurt pas, ce qui représente l'éternité. Avant, c'était les dieux, maintenant, c'est l'État, c'est la société, etc. Seulement, avec la démocratie, cette relation de l'individu au tout social, en fait, qui le représente ? C'était les dieux qui représentaient le dieu social, maintenant ce sont les États, les nations, etc. Dans la démocratie, ce qui est intéressant, c'est que ce rapport d'endettement a été, justement, renversé. Ce n'est plus la société qui est créancière de la dette de vie, de cette relation, c'est-à-dire qu'on doit honorer par des sacrifices, par des paiements d'impôts, c'est les individus dans la société qui sont les créanciers. Et c'est de là que vient le concept de souveraineté du peuple. C'est-à-dire que c'est les individus du peuple qui sont souverains, qui s'agrègent et qui délèguent leur souveraineté à l'État. Et d'où le problème de dette souveraine, dette sociale, c'est que l'État, pour maintenir sa légitimité, doit honorer cette dette sociale, c'est-à-dire il doit la protection de la vie des individus. Et là, dans la case du Covid, on voit très bien que ça fonctionne très bien, cette idée-là.
D'où le fait que pour vous, l'Europe doit devenir un projet vraiment politique et une institution sociale, comme on le disait au début de cette émission.
Oui, pour s'inscrire dans une durée indéfinie. Et quand Draghi, c'est intéressant, il dit « je crois que l'euro est irréversible », on sait très bien que l'euro n'est pas irréversible. Mais les financiers, eux, ils ont une autre vision de la souveraineté. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils baptisent les dettes des États des dettes souveraines, parce que dans la dette souveraine, les souverains, ce ne sont pas les États. C'est la finance qui est souveraine sur les dettes souveraines. Et l'annulation des dettes, c'est assez compliqué, parce que les États souverains ont bien du mal à annuler leurs dettes maintenant, dans le système de la globalisation financière. On l'a vu avec la Grèce, mais surtout avec l'Argentine, c'est très intéressant. Parce que dès l'instant que vous avez une dette souveraine et que l'État fait faillite, ne peut pas honorer cette dette souveraine, ne peut pas payer ses emprunts, en gros, et les reconduire, eh bien, à ce moment-là, il va essayer de renégocier sa dette, de réduire les taux d'intérêt, etc. Mais c'est très difficile parce que c'est souvent passé sous la forme de contrats. Et à ce moment-là, les juristes vont dire, eh ben non, l'État, quand il passe des contrats, ce n'est plus un État souverain. Il relève du droit commercial. On peut l'obliger à payer ses dettes, etc. Alors, l'idée de Laurence est très bonne de ce point de vue-là.
On est deux, oui. je tiens à le souligner.
Laurence Cialom.
Non, je tiens à souligner, c'était un travail qui a été fait avec Baptiste Bridonneau. Et comme c'est une partie importante de son travail de thèse, oui, je tiens absolument à ce qu'il soit associé.
Et sur cette difficulté aujourd'hui des États, Bruno Terret parlait de l'Argentine, cette difficulté à annuler la dette, alors même que cela peut être un moyen d'éviter des plans d'austérité qui, dans le cas de la Grèce, se sont révélés dramatiques, par exemple.
Oui, bien sûr. On voit bien avec, par exemple, les recours des fonds vautours sur ces problèmes de restructuration de dettes souveraines. Mais la proposition que l'on fait est très différente, puisque là, pour le coup, ça serait le créancier, en l'occurrence le détenteur de dettes, la BCE, qui prendrait la décision de son propre chef, ça ne serait pas une demande du débiteur, hein, c'est-à-dire de l'État, de faire un don aux États, en contrepartie duquel ceux-ci récupèrent des marges de manœuvre pour financer la transition écologique. Donc là, on n'est plus dans une approche de marché, on n'est plus dans le respect de clauses contractuelles, puisque c'est une décision unilatérale de celui qui détient la dette. Un acte de souveraineté.
Il nous reste peu de temps, peut-être simplement au moins le temps de conclure. Est-ce que vous croyez l'un et l'autre en la capacité de la BCE de se réinventer à la faveur de la crise que nous traversons, Bruno Terray?
Je ne crois pas que la BCE puisse se réformer s'il n'y a pas en parallèle des initiatives des États pour se réapproprier leur pouvoir financier. Parce qu'on n'a pas du tout parlé de cette question-là, c'est que dans Maastricht et dans la construction de la BCE comme banque centrale indépendante, eh bien, c'est accompagné d'une interdiction aux États faite de émettre leur propre monnaie dans le cadre de leur circuit du trésor. Et donc, c'est quelque chose qui me paraît assez central pour revenir à une forme de banque centrale comme celle du moment du plan de la reconstruction, quand la banque centrale faisait des arbitrages entre les émissions de monnaie de crédit par les banques et les émissions de monnaie fiscale par les trésors publics, etc.
D'où votre proposition de créer effectivement une monnaie fiscale complémentaire qui serait en fait une monnaie secondaire, Bruno Terray.
Oui, voilà, c'est ça, oui, exactement.
Laurence Yalom.
Je pense qu'on est dans une phase de basculement de la doctrine des banques centrales, du central banking, de la doctrine des banques centrales, pas seulement en Europe. Quand vous regardez l'histoire longue des banques centrales, vous vous rendez compte qu'il y a des cycles. C'est-à-dire qu'il y a des périodes de plusieurs dizaines d'années où les relations entre les États et les banques centrales sont très différentes. Il y a eu des périodes où les banques centrales étaient dans une relation de relative subordination à l'égard des gouvernements. Ça a été le cas après la crise des années 30, par exemple, la vague de nationalisation des banques centrales qu'on a eue, le fait que les banques centrales ont financé monétairement les États, etc. Ensuite, on a eu la doctrine du néolibéralisme qui s'accompagne de l'indépendance des banques centrales, qui s'accompagne effectivement de cette financiarisation de la politique des banques centrales. Je pense qu'aujourd'hui, face à la pression de la transition écologique et donc d'une urgence qui est une urgence vitale pour l'humanité dans son ensemble, on est dans une période où on a un basculement de la doctrine. Je pense que ça peut aller très vite. Je pense que les banques centrales en ont conscience. Il suffit de regarder le dernier rapport Greenswamp qui a été publié à la BRI. Et donc, je suis relativement optimiste sur la capacité des banques centrales à se réinventer et réinventer leurs relations avec les États.
Merci beaucoup Bruno Terray et Laurence Yalom de nous avoir accompagnés aujourd'hui malgré la distance et les difficultés techniques. Et merci à toute l'équipe d'Entendez-vous l'écho qui travaille d'arrache-pied, en particulier notre réalisateur Jean-Christophe Francis, Aliette Ovine et Marguerite Caton. On se quitte avec Ghost Poet et son titre Nowhere to Hide Now, extrait de son dernier album. Demain, d'une crise à l'autre, avec François Gémen et Mireille Chirolleux-Assouline, on se demandera si la catastrophe écologique sera la crise d'après. Mais d'abord, dans un instant, ce sera l'heure de la Compagnie des œuvres avec Mathieu Garrigou-Lagrange, qui nous fait découvrir la crise à travers la littérature. Bonne journée à tous et à demain.
Down the wall, dynamics cold. Tell me how you feel. Am I on your mind? Do you need a lift? Have we got the time? Yeah, yeah, but I'm your machine. Turn me on and on. Dead is wasted time. Bombs are going off. Bodies in the streets. Panic in the pipes. Screaming fills the air. It's going down tonight. It's going down tonight. We hold the keys. We turning these locks together. You hold the dark streets alone. I stick to shadows forever. She said, shoot for the moon, honey. But there's no light inside. We hold the keys. We turning these locks together. You hold the dark streets alone. I stick to shadows forever. She said, shoot for the moon, honey. But there's no light inside.
times. Let me ease your mind. I'm your machine. Let me do the time. Here's the trudge of fear tearing us apart. But I'm your machine. I was made to last. Yeah, yeah, yeah. Dribble from a grin. Jig away the sin. Toast to burning times. This Merlot tastes divine. Yeah, yeah, but drunken power plays. So much on the line. Emerging from the sea. Embracing from behind. Embracing from behind. Yeah, we hold the keys. We turning these loves together. You are.